franceinter.fr. La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour
aux deux Alain d'ailleurs. Il est de bon ton aujourd'hui, Alain Baraton, de condamner le népotisme. On l'a toujours fait ?
Eh bien oui, parce qu'autrefois c'était une pratique courante. Prenons pour exemple André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV. Il faut suivre maintenant. Il est le fils de Jean, jardinier de Louis XIII, et le petit-fils de Pierre, jardinier lui aussi royal. La maman d'André Le Nôtre est la fille d'un grand jardinier, Toussaint Jacquelin. Si Le Nôtre est baptisé André, c'est en honneur de son parrain, André Bérard de Maisoncelle, contrôleur général des Jardins du Roi. La marraine de Le Nôtre est Claude Martigny et elle est mariée à Claude Mollet, un immense jardinier à qui l'on doit les théories du jardin à la française.
Et alors il y a un certain Claude Dégot, qui est-il ?
Eh oui, un très grand jardinier là encore qui œuvre aux côtés d'André Le Nôtre à la construction des jardins de Chantilly. Il est le fils d'Élisabeth et Élisabeth est la sœur d'André Le Nôtre.
Alors je lis ce que vous m'avez écrit, Michel Lebouteux. Est lui aussi un grand professionnel.
Il travaille pour le duc de Vendôme et il est à Versailles. Il est en charge des jardins du Grand Trianon. Eh bien, en 1647, avant même la construction, bien sûr, du château, il a épousé une petite nièce d'André Le Nôtre. Comme quoi, voyez-vous, chez les Le Nôtre, on fait tout en famille.
Alors, ok, pour le métier, ça s'hérite. Mais l'intelligence, elle est héréditaire ?
Eh bien, pourtant, là, on serait tenté de répondre non. Eh bien, pourtant, il y a là encore des exceptions. Laurent de Jussieu est né en 1651 et il est reçu maître apothicaire le 6 juin 1671. Notre homme se distinguera vite par ses compétences en botanique. L'un de ses fils, Christophe, est lui aussi apothicaire.
Il faut dire que la famille est nombreuse et que Laurent a 3 autres enfants.
Antoine de Jussieu, qui est nommé professeur de botanique au Jardin du Roi en 1709. L'homme est reconnu pour son talent. Bernard de Jussieu, lui aussi éminent professeur de botanique, un génie de la reconnaissance végétale et très certainement l'un des plus grands botanistes du XVIIIe siècle. Et enfin, Joseph de Jussieu, botaniste comme ses frères, est célèbre pour avoir, entre autres, exploré le Pérou. Ses herbiers, car il passait ses journées à herboriser, sont conservés au Muséum d'Histoire Naturelle et ils sont toujours étudiés par les scientifiques.
Alors dans la famille, on fait beaucoup d'enfants et l'aîné des Jussieu, Christophe, il a une sacrée descendance.
Eh bien oui, il a pour fils Antoine Laurent qui deviendra en 1794, excusez du peu, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et lui-même aura pour enfant Adrien, botaniste encore et toujours et membre éminent de la Société des Sciences. Il existe donc bel et bien des familles où le talent et l'intelligence se transmettent de génération en génération.
Question de Monique qui a stocké des pommes dans une petite serre et les feuilles de plusieurs agrumes sont tombées. Y a-t-il un rapport ?
Non, et pourtant cette question ne manque pas d'intérêt pour la raison suivante. Les épluchures de pommes ou la pomme contient de l'éthylène et l'éthylène est un gaz. Vous avez par exemple une belle orchidée. Elle est là mais elle ne fleurit pas. Mettez une pomme au pied de votre peau et vous verrez que les fleurs vont rapidement s'ouvrir car justement l'éthylène accélère la floraison des fleurs. Le problème c'est que les feuilles ne sont pas des fleurs et je ne vois pas du tout pourquoi les feuilles des orangers, citronniers, enfin des agrumes chuteraient parce qu'on y a mis des pommes. Non, la chute de la feuille d'un agrume qui vit dans une serre ou dans une orangerie est souvent liée, est toujours liée à un problème soit de chauffage, soit d'arrosage. Trop d'eau, pas assez d'eau, la feuille se recroqueville, sèche et tombe. Et si la feuille tombe brutalement, c'est un problème de température. Les orangers en hiver détestent les températures trop élevées. Donc la température est soudainement passée de 15 à 20 ou 25 degrés. Chute des feuilles. Ce n'est pas dramatique, les feuilles vont repartir, mais attention, c'est un peu fatigant pour la plante. Donc dans le cas précis, on mange les pommes, mais on peut aussi les laisser tranquillement au pied des orangers, il n'y a aucun problème pour les feuilles.
Question d'Eliane. En avril 2013, j'ai planté un magnolia à feuilles caduques. Depuis, je ne le vois pas pousser. Il fait des fleurs et beaucoup de feuilles, mais ne grossit pas. Que dois-je faire ?
Que c'est beau le magnolia, qu'on appelle à tort tulipier. Il ne faut pas confondre le magnolia tulipier et le tulipier de Virginie. Ce sont deux arbres totalement distincts. Le magnolia à la... Surtout celui-ci, je pense qu'il s'agit du Soulangeana. C'est vraiment, il fleurit en forme de tulipe d'ailleurs. L'arbre en est couvert, c'est absolument superbe. Eh bien, voyez-vous, la nature prend son temps. Un arbre a une espérance de vie nettement supérieure à la nôtre. Et un magnolia de 80-100 ans est un gamin, c'est un enfant. Alors, le petit magnolia, vous vous doutez bien, que vient de planter notre ami, eh bien, il faut de la patience. Ce qui compte, c'est qu'il fasse des feuilles. Ce qui compte, c'est qu'il fasse des fleurs. Qu'importe s'il grossit du tronc ou pas, ce qui a de l'importance, c'est qu'il poursuive sa croissance et continue chaque année à émerveiller le regard des propriétaires, en admettant même qu'on soit propriétaire d'un arbre. Je préfère le terme de conservateur. On a pour mission de conserver un arbre, on est rarement le propriétaire. Mais il est vrai que le camélia est beau. J'en profite pour rappeler également que quand on est devant un camélia, on oublie le sécateur, on le range. Le camélia n'a pas besoin d'être taillé pour être magnifique.
Camélia, magnolia, plein de promesses. Simon a deux questions pour vous. La première, sur mon terrain, un pêcher a donné de beaux fruits l'an dernier. Il n'a pas été taillé à l'automne. Sera-t-il possible de le faire au printemps? Et par ailleurs, il y a de la mousse sur les branches. Ça, c'est la première question.
Alors, au niveau des pêchers, au niveau des pruniers, au niveau des cerisiers, je ne cesse de dire que la taille ne sert pratiquement à rien, si ce n'est à blesser le végétal. J'en profite
de toute façon, vous êtes
rappeler...
contre la taille des végétaux.
Bah, écoutez, je crois qu'on a tous connu, dans notre enfance ou même adulte, des propriétés à la campagne abandonnées ou tenues par des gens qui étaient devenus fatigués, qui n'avaient plus malheureusement l'usage d'un physique qui leur permettait de jardiner comme ils l'auraient souhaité. Et on a devant soi un pêcher, un prunier, voire même un pommier, qui n'a pas connu un sécateur depuis 30 ans et qui absolument est couvert de fruits. Un petit peu comme les rosiers. Vous avez des maisons abandonnées et le rosier produit une quantité de fleurs incroyable. Le pêcher n'a pas besoin de taille pour prospérer. Le cerisier déteste la taille. Le prunier, sauf si on est producteur de fruits du côté d'Agen, n'a pas besoin d'être taillé. Donc le pêcher, on le regarde, on se contente simplement de couper les branches gênantes, on coupe les branches endommagées ou mortes et on fait en sorte par contre peut-être de tailler le centre de l'arbre pour que le soleil puisse baigner, caresser je dirais l'intégralité de la ramure, mais pas de taille pour le pêcher, on perd son temps. Pour que la mousse,
oui.
Vous avez parlé de la mousse,
de la
je
mousse.
Crois.
Il y a de la mousse sur les branches.
Voilà, un petit coup de brosse tout simplement, ce n'est pas un drame. Attention, l'écorce est fragile, donc on n'emploiera pas une brosse métallique. Mmh. On donne simplement un petit coup de brosse, et encore en admettant qu'on trouve que cela n'est pas très esthétique, sinon là encore, le pêcher s'en accommode parfaitement bien.
Seconde question de Simon, cette fois j'ai une bande de terre peu exposée au soleil, que puis-je y planter comme fleur?
Alors il y a quantité de fleurs que l'on peut mettre à l'ombre et qui donneront des résultats. Mais attention, ne pas confondre ombrage et obscurité. C'est-à-dire qu'on entend par ombre dans un jardin un endroit où le soleil n'apparaît jamais. Mais il faut quand même de la lumière. Les plantes que je vais vous citer maintenant ne pourraient jamais pousser dans une cave, par exemple. Donc il faut de la lumière. Mais vous pouvez planter, bien sûr, on le sait, des impatiences. L'occasion d'ailleurs de tordre le cou à une réputation. L'impatience accepte aussi le plein soleil. On a le sentiment que cette plante qui accepte les situations ombrées a besoin d'obscurité, enfin pas d'obscurité, d'ombrage pour prospérer. Absolument pas. Soleil, mi-soleil, ombrage, convient à l'impatience, mais vous pouvez aussi planter des cyclamènes. J'aime bien les cyclamènes, ce sont des petites fleurs délicates. Les campanules, j'aime beaucoup également, parce que ce sont des fleurs en forme de cloche. C'est la plante qu'on voit souvent dans les dessins animés. C'est l'une des plantes les plus belles, avec la marguerite à styliser. Et puis bien sûr, géranium vivace, et ne l'oublions pas, une plante. Elle est une plante qui fleurit bien à l'ombre. Le muguet, c'est d'actualité.
Oui, c'est bientôt.
Oui.
Vous allez venir exprès pour nous en apporter demain?
Je ne voulais, oui, j'avais prévu.
Demain, vous venez à la radio?
Mais tout à fait.
C'est
oui,
vrai?
Oui, je vais essayer.
Avec
de faire,
des cajots?
Je vais faire plus vite que Bougrain Dubourg pour une fois.
Vous avez un conseil à nous donner pour terminer?
Eh bien oui, alors je voulais saluer le numéro 1 d'une revue qui vient tout juste de paraître. Logique, c'est le numéro 1. Patio, oui je sais, c'est un espace, ça s'appelle je crois un pléonasme. On reprend donc Patio. Un espace agréable à vivre au plus près de la maison. Ça vient tout juste de sortir. C'est le numéro 1, donc consacré aux belles ambiances, aux spa et micro-piscines, à l'éclairage extérieur et la potée et jardinière. Et ça coûte 7,80€.
Et quand ils en seront numéro 20, vous nous le direz.
Oui, bien sûr.
Bon, vous laissez enfin la place maintenant à Alain Bougrain-Dubourg.
Oui,
vous poussez un petit peu, regardez toute la place que vous prenez à la table.
Il trépigne.